שבם לבוי נבוי עם השם לא ישמרים
L'épisode d'aujourd'hui est particulièrement long, mais ce n'est pas pour rien. Je tiens juste à vous préciser que pour élucider des énigmes, les comprendre et les exposer, surtout lorsqu'il s'agit d'études qui ont été menées sur des siècles et des siècles, puis résumer en une vidéo, la longueur de cette dernière est évidente et compréhensible. Aussi, certains événements sont liés l'un à l'autre. Donc, pour ceux qui n'ont pas visionné les épisodes précédents, je vous invite, Inch'Allah, à les visionner afin de pouvoir comprendre ce qui sera dit dans cet épisode ou, au mieux, établir les liaisons entre différents faits historiques que vous connaissez déjà et d'autres que vous avez loupés pour enfin former la meilleure connaissance que vous puissiez avoir sur la véracité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les livres des Ahlul Kitab, des gens du livre. Enfin, pour vous rendre le visionnage plus agréable, voici ce dont on va parler. Premièrement, la vision étrange du roi Nabucodonosor. Deuxièmement, la condition, puis l'explication de cette vision. Troisièmement, la vision étrange du prophète Daniel. Quatrièmement, l'explication par les anges de cette vision. Et cinquièmement, la vision de Daniel appliquée aux faits historiques. Est-ce vraiment arrivé? Comme nous l'avons dit dans l'épisode précédent, le sujet d'aujourd'hui est l'une des prophéties les plus étonnantes pour deux raisons. Non seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a parlé dans un hadith, qui n'est certes pas authentique, mais cet événement s'est réellement produit, et aussi parce que le prophète Daniel l'a prophétisé également. Je vous recommande donc de regarder l'épisode jusqu'au bout, barakallahu fikum. Jérusalem a été et reste une grande ville gouvernée par les plus grands prophètes de Dieu tels que David et Salomon, et dans laquelle prévalait la pure doctrine du monothéisme. Cependant, après un certain temps, des sortes de paganisme commencèrent à se répandre rapidement. La corruption et la déviation ont commencé à se répandre au milieu des enfants d'Israël. Allah subhanahu wa ta'ala les punira donc pour leur shirk et ils seront capturés par d'autres nations. Et effectivement, au 6e siècle avant Jésus, alayhi salam, les enfants d'Israël ont été capturés et exilés à Babylone par le roi Nabucodonosor. Et à Babylone, la ville de l'exil, il y avait un des plus grands prophètes des enfants d'Israël, Daniel, alayhi salam. Certains hadiths le mentionnent. Et Daniel est le prophète que les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont enterré des centaines d'années après sa mort. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi particulier avec le prophète Daniel alayhi salam? Le prophète Daniel alayhi salam a fait un rêve très étonnant. Il a vu que la terre sera conquise par 4 empires géants consécutifs et la ville de Jérusalem restera toujours une partie de ces empires. Après ces 4 empires, un grand prophète apparaîtra. C'est ce que le prophète Daniel vit dans sa vision. Alors, qui est ce prophète dont Daniel a annoncé la venue? Et qu'en est-il de la vision qu'il a vue et qui existe encore dans la Bible que les juifs et les chrétiens ont? Il a été rapporté dans un hadith non authentifié, celui qui guide vers Daniel, annoncez-lui le paradis. La chaîne de transmission de ce hadith doit être prise en considération. Cependant, quand les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont conquis la ville de Shushtar, ils ont trouvé dans la demeure de Hormuzan un grand homme couché sur un lit et rien n'a changé de lui même s'il est mort il y a des centaines et des centaines d'années. Ils ont demandé aux Perses et en ont conclu qu'il était le prophète Daniel, alayhi salam. Quand les gens de Shushtar furent privés de la pluie, ils prirent le lit du prophète Daniel et le levèrent. Alors, la pluie tombait. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont envoyé un message au calife Omar ibn al-Khattab pour lui demander ce qu'il faut faire du corps de ce grand prophète. Alors, ils ont creusé 13 tombes dispersées, puis on l'enterra dans l'une d'entre elles pendant la nuit, et on égalisait le niveau du sol afin que personne ne le trouve et ne soit tenté par des actes de polythéisme, comme le fait de lui vouer des cultes qui ne reviennent qu'à Allah, comme le fait de lui demander de l'aide ou autre, comme ce que font certains musulmans aujourd'hui. Et aussi, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont trouvé, près du lit de Daniel, un livre. Un livre qui contient des prophéties. Ce livre contient des prophéties sur les choses qui se produiront dans le futur. Ils l'ont pris et l'ont envoyé au calife Omar ibn al-Khattab. Ce livre des prophéties est un livre qui existe dans la Torah, appelé Livre de Daniel, Nevim Daniel. Et le livre de Daniel existe toujours dans la Bible. Le livre de Daniel commence par une étrange vision que le roi Nabucodonosor a fait en songe. Cette vision l'a perturbé et il ne savait pas l'interpréter. Ainsi, il envoya aux sages, aux anciens, aux sorciers et aux diseurs de bonnes aventures dans le but de trouver une interprétation de cette vision, mais avec une condition. Il devait d'abord lui dire ce qu'était la vision, puis l'interpréter. Cela signifie que celui qui interprète la vision dira « Le roi a vu telle et telle vision et son interprétation est telle et telle ». Donc, évidemment, personne n'est venu interpréter la vision à cause de cette condition. Le prophète Daniel était l'un de ceux que le roi Nabucodonosor a fait venir. Mais il a demandé au roi de lui donner un peu de temps pour qu'il puisse prier et supplier Allah le Tout-Puissant. Après quelques temps, il revint vers le roi et lui dit « Je te dirai la vision que tu as vue et je l'interpréterai ». C'est mentionné dans la Bible, le livre de Daniel, chapitre 2, verset 27. Jusqu'au verset 48. Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. » Cela signifie que Daniel a dit au roi que personne ne sait ce qu'il avait vu, mais Dieu la lui révéla. Il continue « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabucodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. » Cela signifie que cette vision est une prophétie qui se produira dans le futur. « Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Prêtons attention à ces versets. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Cela signifie qu'il est apparu par Dieu, pas par les humains. Alors, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Maintenant, le prophète Daniel va commencer à interpréter cette vision. Daniel dit « C'est toi qui es la tête d'or. Le royaume de Babylone que Nabucodonosor a gouverné est la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Cela signifie qu'après le royaume de Babylone, un nouveau royaume se lèvera. Puis un troisième royaume, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. Ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Donc, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Faisons attention à ce qui va être dit. Et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même subsistera éternellement. Cela signifie qu'il restera jusqu'à la fin des jours une nation soutenue par Allah le Tout-Puissant et qu'aucun autre ennemi ne la contrôlera à part quelqu'un d'entre eux. Cette nation se lèvera et écrasera ses quatre royaumes. Et cette nation et sa législation resteront jusqu'au jour du jugement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Lorsque Nabucodonosor entendit l'explication de Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Alors le roi Nabucodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Donc, revenons au texte. Les caractéristiques de la roche qui a été découpée mais pas par la main humaine et que ce sera une grande nation, y vaincra tous ses royaumes et il restera jusqu'au dernier jour de ce bas monde. Cette prophétie s'est accomplie. 4 empires géants se sont levés et ont régné sur la terre. Après cela, une nation s'est levée et les a tous vaincus et a ramené la doctrine du monothéisme. Mais, afin d'être impartial, cette prophétie reste aussi ambiguë. Il nous faut plus de détails afin de définir qui était exactement la nation désignée par cette prophétie. On a besoin de caractéristiques plus claires afin que nous puissions nous assurer que celui qui est apparu après les 4 empires est bien la nation de l'islam. D'où pourrions-nous obtenir de tels détails et caractéristiques? Eh ben, c'est là la surprise. Après quelques années de la vision de Nabucodonosor, le prophète Daniel lui-même a vu la même vision que Nabucodonosor avait vue, mais cette fois avec des détails et des signes plus clairs. Et ce sont les anges qui l'interpréta pour lui. Le prophète Daniel, alayhi salam, a vu dans son rêve les 4 empires qui gouverneront la terre et il a vu aussi dans son rêve le grand prophète. Lisons ensemble ce que Daniel a vu. C'est mentionné dans la Bible, le livre de Daniel, chapitre 7, verset 1 au verset 20. « Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. » Donc, les 4 bêtes sont des royaumes. 4 royaumes. « Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. » Et voici, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Après cela, je regardais et voici, un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Attention, ce troisième royaume à 4 têtes est important. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Donc, il s'agit d'un royaume oppressif. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Et il avait 10 cornes, donc 10 rois. Le 4e royaume est sauvage et violent. Il a 10 rois par lesquels il encorne les croyants. Quel est ce royaume? Nous allons bientôt le mentionner. Daniel continue. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Donc, nous avons maintenant 11 cornes. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, en ce qui concerne les 3 autres bêtes, Daniel dit, « Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. » Ce qui signifie qu'ils sont devenus de petits pays pendant un certain temps, et non plus des empires comme ils l'étaient. Jusqu'à ce que vienne la grande nation qui écrasera ces pays. Daniel continue. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » C'est donc ce rocher qui viendra à la fin des jours. « Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. » Qui signifie que ce prophète recevra la prophétie et la législation. Il sera un prophète guerrier et toute nation lui obéira. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Cela signifie que la législation restera jusqu'au jour du jugement. Le prophète Daniel alayhi salam fut surpris par cette vision. Donc un des anges l'a interprété pour lui. L'ange dit à Daniel et lui donna l'interprétation de ces choses. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Et l'apparition du fils de l'homme, le rocher qui deviendra une montagne, est la prophétie d'une grande nation. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ils auront l'autorité et le règne parce qu'ils sont soutenus par Allah le Tout-Puissant jusqu'au dernier jour. Et ici, Daniel s'étonna de la 4e bête, ce 4e royaume qui a 10 cornes, 10 rois, qui verra apparaître un 11e et qui parlera par hérésie et blasphème. Qui est-il? Voici le sujet de la vidéo. Si nous connaissons la 11e corne, le 11e roi et le temps jusqu'auquel cette corne régnera, nous connaîtrons certainement la nation qui surgira après son temps. Cette nation, ce peuple saint du Très-Haut, qui ramènera de nouveau sur la terre la doctrine du monothéisme. Donc, il nous faut investiguer sur cette 11e corne. On continue. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. Donc voici ses caractéristiques à cette 11e corne. 1. Il lutte contre les croyants. 2. Il parle avec arrogance. Et 3. Il falsifie la pure doctrine du monothéisme. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit au sein du Très-Haut. Cela signifie qu'il a donné la terre et le règne à la nation fidèle qui suit la doctrine du monothéisme. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Cela signifie que cette nation vaincra le royaume de la 11e corne et Dieu les aidera à conquérir les terres. Soyons d'autant plus attentifs. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il y abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Au début, il y aurait 10 rois du 4e empire. Ils opprimeront les monothéistes. Après cela, 3 rois tomberont devant le 11e roi, la 11e corne. Donc, les signes de ce 11e empereur, c'est que 3 empereurs tomberont devant lui, qu'il vaincra 3 empereurs. Il parlera avec des paroles blasphématoires contre le Très-Haut et il falsifiera la doctrine. Maintenant, on se demande quand est-ce que la nation monothéiste se lèvera après cet empereur, la nation que le prophète Daniel a prophétisé. Ne vous inquiétez pas, Allah a mis des signes partout pour ceux qui veulent voir. Le camp est mentionné dans la Bible, le livre de Daniel, chapitre 7, verset 25. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, cet empire gouvernera la terre pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Qu'est-ce qu'un temps ? Donc, un temps est une unité biblique qui est égale à un siècle, 100 ans. Comment le savons-nous ? C'est simple, en se référant au livre de l'Apocalypse d'Abraham, chapitre 28, verset 5, il est écrit qu'un temps est égal à 100 ans. Cela signifie un siècle, deux siècles et un demi-siècle, qui est égal à 350 ans. Donc, en faisant le calcul, nous avons un temps, des temps et un demi-siècle égal à 350 ans. Donc, après 350 ans, la dernière nation viendra, le peuple saint du Très-Haut. Donc, la législation, le règne et la domination restera jusqu'au jour du jugement et ils auront le royaume de cet empereur. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Ainsi était la fin de la vision du prophète Daniel alayhi salam. Maintenant, que s'est-il passé dans l'histoire des nations après cette prophétie ? Le plus étonnant est que tout ce qui a été mentionné dans cette prophétie s'est réalisée et de la même manière que Daniel le voyait dans sa vision. Avant d'appliquer cette prophétie aux incidents historiques qui suivirent, une question légitime peut se poser. Et qui vous dit que le livre de Daniel a été écrit avant ces événements ? Peut-être qu'il a été écrit bien après ? Nous lui répondrons. Le livre de Daniel a été écrit 500 ans environ avant Jésus. Et ceci est historiquement incontestable. Ce livre est dans la Septante, les traductions grecques de l'Ancien Testament qui a été écrit 3 siècles avant Jésus. Par exemple, quand Flavius Joseph, un historien célèbre dans le 2e siècle, a abordé le sujet de la vision de Daniel dans son livre Antiquité judaïque, page 438, il a mentionné les 4 royaumes et a dit que le rocher qui détruira la statue n'est pas encore apparu. Ce rocher qui frappera les 4 empires et deviendra comme une montagne n'est pas encore apparu. Ainsi, les gens attendaient la prophétie pour voir comment elle allait se produire. Ils attendaient aussi la nation qui ramènera la doctrine du monothéisme à toute l'humanité. Et maintenant, nous allons appliquer la vision de Daniel aux incidents historiques qui se sont produits. Le prophète Daniel alayhi salam était dans le royaume de Babylone. Ainsi, la première bête, le premier royaume que Daniel vit dans sa vision, est le royaume de Babylone. Le lion ailé était le symbole du royaume de Babylone. Ce symbole se trouve sur les temples babyloniens jusqu'à présent. Après cette bête, le royaume de Babylone, un autre empire se leva, c'est l'empire persan. Ainsi, cet empire s'est levé après l'empire babylonien et il l'a conquis. Les 3 côtes que la seconde bête avait dans sa bouche signifient que l'empire persan gouvernera les terres des 3 continents. Pour la 3e bête, le 3e empire dans la vision de Daniel, c'est le royaume d'Alexandre le Grand. Son royaume a émergé après l'empire persan. Donc, pour le moment, nous avons le royaume babylonien, puis l'empire persan, puis Alexandre le Grand jusqu'à présent. Selon la prophétie de Daniel, cet empire a quatre têtes. Les quatre têtes représentent une scission dans le royaume. Après la mort d'Alexandre le Grand, son empire fut divisé en quatre royaumes. Cela est connu historiquement. Cet empire s'est formé si rapidement que le prophète Daniel a.s. l'avait vu comme un léopard pour sa rapidité, comme nous le voyons dans l'image. Pour la quatrième bête, le quatrième empire dans la vision de Daniel a.s., il s'agit de l'empire romain. L'empire romain avait 10 cornes. 10 empereurs romains opprimeront les monothéistes. Et c'est ce qui s'est passé. 10 empereurs romains ont opprimé les chrétiens monothéistes dans les 3 premiers siècles après qu'Allah ait élevé Jésus à lui. Et même, la persécution des chrétiens par les empereurs romains est appelée les 10 persécutions. C'est une question connue dans l'histoire du christianisme. Comme on peut voir dans l'image, ce sont les noms des 10 empereurs romains qui ont persécuté les chrétiens monothéistes. Juste pour une petite précision, lorsque l'on parle des chrétiens avant l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup d'entre eux n'étaient pas idolâtres comme les chrétiens d'aujourd'hui. Ils étaient des croyants et des musulmans, car adorant Allah l'unique et soumis à ses ordres, en suivant les ordres de Jésus alayhi salam. Nous détaillerons, inshallah, cela dans la suite. Après les 10 empereurs, la 11e corne apparaîtra. Le 11e empereur. Le pire empereur de l'empire romain. 3 empereurs tomberont devant cet empereur. 3 cornes tomberont devant cette corne. Cet 11e empereur répandra le blasphème. Il dira des mots contre le Très-Haut. On se demande qui est cet empereur. Selon l'histoire du christianisme, après les 10 persécutions, Constantin le Grand est apparu. Ainsi, Constantin est la 11e corne. Cet empereur a vaincu ses 3 rivaux. Il a vaincu les 3 cornes. Il a battu chacun de ses 3 empereurs. Maxence, Maximin II et Licinius. Constantin a vaincu les 3 autres et est devenu l'empereur de l'Empire romain. Maintenant, comment est-ce que cet empereur a prononcé des paroles blasphématoires avec arrogance? Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Cela signifie qu'il dira des paroles blasphématoires. Il opprimera les saints du Très-Haut. Cela signifie qu'il luttera contre les monothéistes. Et il espérera changer les temps et la loi. Cela signifie qu'il changera les temps des jours saints. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Le verset précédent signifie que sa tyrannie durera 1 siècle, 2 siècles et 1/2 siècle. C'est à peu près 350 ans. Qu'est-ce que Constantin a fait? A-t-il vraiment parlé contre le Très-Haut? A-t-il vraiment opprimé le peuple saint, lutté contre la religion et changé les temps des jours saints? A-t-il fait ça? Oui, il a fait tout ça. Cet empereur a convoqué les chrétiens pour le concile le plus dangereux dans l'histoire humaine, concile de Nicée en l'an 325. À ce concile, la pure doctrine du monothéisme a été corrompue. Cette doctrine avec laquelle est venu le prophète Isa, Jésus alayhi salam. Si vous le souhaitez, nous pouvons faire une vidéo sur le concile de Nicée et l'histoire du christianisme, comme on le connaît aujourd'hui. Pour cela, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Aussi, Constantin a contraint les nations chrétiennes à idolâtrer Jésus. Il a ainsi lancé la persécution des chrétiens monothéistes. Et c'est Constantin qui a changé les temps des jours saints. Les premiers chrétiens sanctifiaient le samedi. Cependant, Constantin l'a aboli et a fait du dimanche le jour saint. Personne n'a défié le monothéisme et l'est corrompu depuis Adam alayhi salam jusqu'à l'époque de Constantin. La persécution des monothéistes a perduré comme une politique intérieure à travers l'ère de l'Empire romain. C'est resté ainsi pendant 3 siècles et demi, pendant un temps, des temps et 1/2 temps. Que s'est-il réellement passé après 3 siècles et demi depuis l'époque de Constantin? Si nous ajoutons 3 siècles et demi à l'époque où Constantin est entré en fonction, qui est autour de 300, on sera à l'an 650. Et 650 est le moment où l'état de l'islam atteignait sa gloire. C'est l'époque où les musulmans ont conquis la ville de Jérusalem. L'époque de la propagation du monothéisme pur sur terre. Une nouvelle fois, la doctrine du monothéisme a été ramenée aux gens. Un monothéisme au pouvoir, au règne et à la législation. Les musulmans ont reçu les royaumes de la terre de la même manière que Daniel a prophétisé. Et ce n'est pas tout. Les musulmans ont capturé même la ville de Constantin. Ils ont capturé Constantinople, la capitale de Constantin, qui a été nommée après lui. Constantin, Constantinople. Constantinople était la capitale de l'Empire romain oriental. C'était la capitale de l'Empire byzantin et est devenue une ville islamique, qui est actuellement Istanbul. Les musulmans ont capturé le royaume de la 11e corne, tout comme Daniel alayhi salam a vu dans sa vision. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Oui, ô prophète Daniel, nous avons capturé le royaume. Non seulement nous avons capturé Constantinople, mais plus personne ne la revendique. Et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le suivront et lui obéiront. Oui, ô prophète Daniel, il a été donné au peuple saint du Très-Haut. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentifié, « La première armée parmi mes disciples qui envahira la cité de César sera pardonnée de ses péchés. La nation islamique a dominé tous les royaumes de la terre. Ils ont vaincu les quatre bêtes comme l'avait prédit Daniel alayhi salam. Babylone, la Perse, le Levant et Constantinople ont tous été conquis. L'islam s'est répandu dans les grands royaumes, de la Chine à l'Andalousie en Espagne. Son royaume sera un royaume éternel. La charia restera jusqu'au jour dernier de ce monde. L'islam ne disparaîtra jamais. L'islam restera la seule religion monothéiste sur terre. Que cela plaise ou non, l'islam entrera dans chaque ville et dans chaque village. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette affaire atteindra certainement ce qui est atteint par la nuit et le jour, et Allah ne laissera pas de logement de briques ni de fourrure sans qu'il n'y fasse pénétrer cette religion avec puissance et fierté ou humiliation profonde. Les musulmans ont et continuent de capturer des royaumes, n'en déplaise à certains. Cette vision, celle de Daniel alayhi salam, ne peut s'appliquer à aucune autre nation que la nation islamique. Ni pour le calendrier chronologique, ni pour la description des événements. Le fils de l'homme qui ramènera le monothéisme après 3 siècles et demi, depuis l'époque de Constantin, n'était et ne sera personne à part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed était le rocher que Nabucodonosor a vu, celui qui a brisé la statue et a écrasé le royaume païen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de lui-même dans un hadith en disant « Je suis cette brique et je suis le dernier des prophètes. » Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Que les bénédictions d'Allah soient sur Mohammed, sa famille, ses compagnons, et sur ceux qui ont suivi sa religion. Amin. L'épisode s'achève, je vous remercie pour votre écoute, et je vous incite tous à bien comprendre les prophéties citées dans cet épisode qui a demandé un grand travail, et de diffuser au maximum aux gens afin qu'ils sachent ce que leurs élites leur cachent. Nous sommes la communauté du savoir, celle qui remet en question les informations jusqu'à ce qu'elle arrive à la réelle vérité, mais avec sincérité. Nous sommes la communauté du Très-Haut, ses serviteurs, et nous sommes la meilleure communauté qu'Allah ait sortie aux gens. Nous appelons au bien et interdisons le mal. Et par cela, nous souhaitons le bien de nos co-religionnaires, afin qu'ils sauvent leurs âmes d'un feu éternel et qu'ils ne soient pas dupes. Nous leur exposons ce qu'il y a dans leurs livres et à eux le choix de se sauver en suivant le message envoyé par Allah par le biais du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce message qui n'est d'autre que d'adorer Allah l'unique, sans lui associer quelque chose. Qu'Allah vous récompense et vous bénisse tous. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum.